On en jase, les amis, sur les ondes de Boulevard 102.1 à chaque midi du lundi au vendredi, midi à 14h. On a énormément de plaisir à faire cette émission pour vous et vous interagissez énormément au 418-971-1021. Merci. D'ailleurs, sur le sujet de l'obésité, il y a Jean-Michel qui en a un bon point. Il dit « Hey, à ça, c'est des trottinettes électriques. Avant, au moins, on poussait ça avec notre pied puis on faisait de l'activité physique. » C'est vraiment un excellent point, Jean-Michel. Et je félicite Philippe Giguère, gagnant de la paire de billets pour le Rouge et Or de l'Université Laval dimanche. Il avait la bonne réponse, c'est-à-dire 24 degrés. Vous avez été plusieurs à participer au concours. On a en studio avec nous l'ami Farnel Morisset. Mais avant, Mathias, tu viens de me faire signe. Hey, Jeff, il y a de la circulation.
Oui, bien, ça commence à être très difficile sur le pont direction sud. Présentement, sur Henri IV, ça remonte un peu après chemin Sainte-Foy. Là, même, on peut dire que ça remonte jusqu'à Versailles-Nord présentement. Là, puis ça va s'empirer de minute en minute. Également, capitale direction est d'Henri IV à un peu après Robert Bourassa, un ralentissement à prévoir. Henri IV direction ouest, cette fois-ci, Henri Bourassa jusqu'à Laurentienne, c'est difficile. Charest direction est, en sortant d'Henri IV jusqu'à Robert Bourassa, ralentissement à prévoir également. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Farnel Morisset, comment vas-tu?
Ça va très bien. Comment ça va, vous autres?
Ouais, ça va super bien. T'as passé une belle semaine?
Ah, super. Hey, il a tellement fait beau. Hey,
c'est
comment
fou,
tu peux
ouais?
pas passer une belle semaine qui a fait beau?
Hey, dire qu'on est rendu le 3 octobre.
Hey, c'est dur à croire.
24
je suis allé me baigner.
Ben voyons donc.
Ben oui, j'ai une piscine chauffée quand même,
ouais.
Mais dans mon bloc, je suis allé me baigner.
Ah,
j'ose espérer qu'elle est chauffée.
Sinon. Oui,
oui parce que les nuits sont quand même assez froides.
Exactement.
Farnel, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te faire entendre, c'est sur la chaîne France 1, ce reportage sur ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle.
C'est un combat quotidien pour des milliers de Gazaouis. Trouver à manger... Et parfois, il faut jouer des coudes dans les centres de distribution alimentaire qui ne sont pas ouverts tous les jours.
C'est la famine. Il n'y a ni nourriture, ni eau. Où aller? Où trouver à manger? Comment nourrir nos enfants?
Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire bloquée par Israël. Et il n'y a quasiment plus de réserves en nourriture ou en eau potable.
Dans quelques jours, on aura d'autres choix que de fermer. On ne peut pas continuer. On manque de tellement de choses, de la nourriture et du bois. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien après 18 mois de guerre. Les bateaux détruits, ces pêcheurs bricolent. Une porte de réfrigérateur pour embarcation et une simple ligne pour trouver du poisson.
Aujourd'hui, il y a peu de poissons. Ces mulets ou ces dorades serviront à peine à nous nourrir.
L'État est vraiment critique présentement dans la bande de Gaza, Farnel. Et là, l'aide humanitaire a encore de la difficulté à entrer là-bas.
Oui. Je veux dire, je pense qu'on peut pas passer à côté de la chose parce que c'est toujours en arrière-plan. Là. On va utiliser un mot qui fait peur aux gens, mais les Nations Unies... Il y a une commission spéciale sur les droits de l'homme qui avait un comité d'enquête indépendant qui a dévoilé son rapport il y a à peu près 2 semaines, comme de quoi, selon leurs études, leur analyse, ce qui se passe présentement à Gaza, c'est un génocide. Le mot est lourd de conséquences, très lourd de conséquences. Il y a encore du cheminement à faire à travers les Nations Unies, tout ça, mais ça reste que ce qui se passe présentement à Gaza, avec Israël qui ne permet pas assez de médicaments, de nourriture à rentrer, c'est un élément qui constitue un des éléments de génocide. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que devant l'action, disons, très lente, même l'inaction internationale, il y a des groupes civils. Alors, c'est des bénévoles qui s'organisent en flottille. Ça, ça a commencé il y a quelques mois.
Mais c'est quoi une flottille?
C'est comme un convoi de bateaux, si vous voulez. Okay? Alors, le mot flottille, là, c'est le mot technique pour dire un convoi de bateaux.
Mais des petits bateaux, là?
Oui, puis c'est vraiment ça. Là.
Mon bateau individuel que j'aurais, moi, je mets des denrées là-dedans, puis je m'en vais porter ça à Gaza.
Ben, tu sais, c'est pas tout à fait... si vous avez un petit bateau dans la Marina de Québec, je pense pas que c'est exactement ça. Là. C'est quand même des bateaux un peu plus gras parce qu'ils vont quand même en haute mer, ils vont dans la Méditerranée. Mais oui, c'est des bateaux. De civils qui ont été souvent donnés de façon bénévole pour ces initiatives-là. Il y en a eu plusieurs depuis quelques mois, mais ça commence vraiment à prendre l'attention maintenant parce que, entre autres, il y a eu les Nations Unies qui ont dévoilé leur rapport, mais pas plus tard que hier, une de ces flottilles-là, de 40 navires, à peu près 500 personnes en tout, qui viennent de tout plein de pays à travers le monde, dont au moins 4 qui viennent du Canada.
Donc, énormément de denrées qui suivent avec ça, de nourriture, de médicaments.
On parle de plusieurs tonnes de nourriture, de médicaments. C'est pas assez pour soulager tous les Gazaouis, mais c'est supposé aider. Partent de plusieurs pays à travers la Méditerranée, à peu près 5 pays de la Méditerranée. Cette flottille-là en particulier, qui s'appelait la flottille globale Soumoud, qui est un mot arabe qui veut dire, là, j'ai mes notes devant moi, résilience, se sont rejoints en Grèce le 23 septembre pour, après ça, tenter de se rendre à Gaza. Gaza qui est présentement sous un blocus israélien. Le blocus lui-même, en droit international, est probablement légal, parce que c'est légal d'avoir un blocus contre un pays ou contre un endroit où on est en guerre pour essayer d'empêcher l'approvisionnement en munitions, en
armes. Ben c'est ça. J'ai compris qu'il y avait un blocus parce qu'on veut pas que des armes additionnelles entrent à Gaza pour justement faire en sorte que le Hamas constitue encore une force.
Oui, ce qui est quand même, je veux dire, on peut comprendre.
Logique,
on ne veut pas armer le Hamas. Ça, je pense
c'est ça,
que
ce qui est logique.
Il y a un consensus là-dessus. Mais un des critères importants d'un blocus pour qu'il demeure légal, c'est qu'on ne peut pas empêcher l'entrée de biens humanitaires. On ne peut pas empêcher l'entrée de nourriture ou de médicaments tant que, par exemple, cette nourriture-là ne va pas aller intentionnellement à nourrir des soldats ou que ce n'est pas des médicaments qui peuvent être réutilisés pour en faire des armes chimiques, par exemple. Mais le principe de base, c'est ça. C'est que s'il y a un besoin humanitaire, on ne peut pas utiliser un blocus pour empêcher l'entrée de ces biens-là et que ça reste légal.
Ouais,
alors, c'est
donc,
ça que les flottilles
essaient
de faire.
Sa plus simple expression, la flottille arrive avec 1000 boîtes de bord-tendre.
Genre?
Ben, je peux pas dire à la flottille, sais-tu quoi, tes bord-tendre retournent au Canada avec, faut que je les laisse entrer à Gaza.
Tu peux pas, à moins que tu puisses prouver autrement, puis là, ça devient compliqué, là, je vais pas rentrer dans tous les détails.
Une
que
arme.
C'est ça, que les bord-tendre sont spécialement conçus pour nourrir les combattants du Hamas. Ça devient compliqué, puis c'est là que Israël va jouer là-dessus, va dire, ah, ben, t'sais, immédiatement, ça va être intercepté par le Hamas qui vont le rediriger à leurs combattants. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Mais le principe de base, tu ne peux pas utiliser un blocus international, même en guerre, pour empêcher l'entrée de nourriture et de médicaments pour des populations civiles qui en ont besoin. C'est pour ça que les flottilles tentent de dépasser le blocus israélien. Évidemment, ils savent que ça va pas fonctionner parce que le blocus israélien, il est très serré, mais que chaque fois qu'ils se font intercepter, ça ajoute un peu plus de pression internationale pour dire, ben là, je veux dire, on essaie d'envoyer de l'aide et les forces armées israéliennes l'empêchent.
Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ces flottilles-là quand on les intercepte? On les envoie où? La bouffe se retrouve où?
Ben, la première chose, il faut comprendre, c'est dès même que la flottille part, alors cette flottille ici qui est partie de Grèce le 23 septembre, le jour même, certains des navires de la flottille, puis encore une fois, ce n'est pas des navires militaires, là, c'est des navires civils qui sont un peu plus gros que des paquebots d'ici, se sont fait attaquer par des drones. Officiellement, on ne sait pas c'est qui les a attaqués, parce que les drones peuvent venir de très, très loin, mais je pense qu'on peut quand même deviner que c'est probablement quelque chose qui fait l'affaire d'Israël.
Attends, là, je vais mettre mon petit doigt dans les airs. OK, je crois que j'ai une réponse.
Ouais, tu sais, encore une fois, on est dans les suppositions, là, mais mettons. Alors, et ça, c'est en eau internationale. Alors, parce que ces flottilles-là ont des civils qui viennent de toutes sortes de pays différents, plusieurs de ces civils-là ont fait appel à leur gouvernement pour dire « Hey, venez nous protéger. » On est dans des eaux internationales. On est dans des eaux commerciales qui sont supposées être libres pour tout le monde.
C'est ça, libre de droit. Donc, je peux me promener là puis je ne suis pas censé me faire attaquer par aucune force militaire d'un pays quelconque.
C'est supposé être la norme.
Ouais.
Alors, il y a quelques pays de la Méditerranée. Il y a l'Espagne, l'Italie, la Turquie qui ont envoyé certaines aides militaires, des bateaux qui étaient là pour encadrer la flottille. Ce qui a mis fin à ces espèces d'attaque de drones-là. Mais évidemment, les navires militaires ne peuvent pas rentrer dans des eaux qui sont sous blocus, parce que ça, on est dans les opérations militaires. Et ça nous amène à un autre concept qui est compliqué, c'est le concept des eaux internationales. Parce que c'est un concept qui est important en droit international, mais qui n'a pas de définition extrêmement claire, qui ne fait pas l'objet de traités auxquels tous les pays sont membres. Alors, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le droit international coutumier, qui est essentiellement juste les bonnes pratiques que généralement les pays reconnaissent, mais ne sont pas obligés, il n'y a pas de contraintes. C'est comme tu demandes à ton ami « Est-ce que j'enlève mes souliers en rentrant chez lui? » C'est de la coutume, mais on s'entend que tu ne veux pas aller en prison si tu ne le fais pas.
Non.
Et selon le droit coutumier, il y a les eaux internationales s'arrêtent à 22 km des côtes, à peu près. Là, c'est normalement, okay. c'est en 1000 nautiques. Là, je fais la conversion en kilomètres. Mais de 22 à 44 km des côtes, généralement, c'est accepté que les pays puissent intercepter des navires qui sont suspects. Alors, il y a cette espèce de zone grise-là de 22 à 44 km. Et c'est, là, dépendant des rapports, parce qu'évidemment, la flottille est assez grosse, les bateaux ne sont pas tous à côté de l'autre. Il y en a qui auraient été interceptés dans les eaux internationales selon ces normes-là. Il y en a qui auraient été dans la zone grise. Et il y en a qui auraient été interceptés dans les eaux territoriales de Gaza, qui sont sous un blocus légal. Et ça aussi, ça amène toutes sortes de complications additionnelles, parce que ça ajoute un élément de, ben là, est-ce que c'est un acte de piratage? Est-ce que c'est un vol de biens commerciaux dans les eaux internationales? C'est pas encore clair non plus. Ce qu'on sait, c'est que les navires ont été interceptés, tous les passagers ont été arrêtés par les forces israéliennes, ils ont été redirigés vers un port sous le contrôle israélien, où tous les denrées vont être déchargées et peut-être, éventuellement un jour, se rendre à Gaza.
À Gaza.
On ne le sait pas. Puis pendant ce temps-là, tous les manifestants, les 500 membres du personnel bénévole de ces bateaux-là vont se faire déporter, ramener chez eux. Puis on parle de gens qui sont beaucoup d'activistes humanitaires. T'sais, Greta Thunberg en est une. Il y a des parlementaires européens qui faisaient partie de ça aussi pour essayer d'amener. C'est toujours dans une optique d'amener de l'attention, d'amener de la pression additionnelle chaque fois, ça en amène un peu plus. Ce qui mène à ce qu'on est en train de faire maintenant, nous, ici en studio, à en parler parce que peut-être qu'on devrait en parler.
Exactement. C'est clair qu'il faut en parler parce que la famine est prise là, à Gaza. Là. On a qu'à voir les reportages depuis des mois. Là, il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans les hôpitaux là-bas pour malnutrition. Donc, c'est pour ça qu'on commence à parler justement de génocide. T'en penses quoi? Est-ce que ça va mettre suffisamment de pression? Là, il y a Donald Trump qui a fait son plan de paix en 20 points.
Ouais, la Riviera Gaza, là, qui est assez, en tout cas, que ça,
il a
ça
dit
c'est.
Au Hamas, vous avez jusqu'à dimanche pour embarquer là-dedans. Mm. Donc, c'est un dossier tellement complexe.
Ouais,
il y a plein d'angles à regarder, mais est-ce qu'on est capable de mettre suffisamment de pression? Parce que pour moi, je comprends qu'il y a une guerre. Mais ça fait pas de sens qu'on empêche de la nourriture d'entrer à Gaza. Là, la famine est prise.
Ben, je pense que tu dis bien, c'est un dossier qui est très, très complexe sur le plan géopolitique. Mais une chose que je me rappelle avoir appris dans mes cours de droit, c'est que oui, le droit, c'est très complexe, mais des choses qui sont simples. Un enfant qui a faim, c'est simple. Le droit international, c'est compliqué. Un enfant qui a faim, c'est simple.
En effet.
Et ben, on parle justement de continuation. Il y a une autre flottille qui est en route présentement, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Évidemment, je veux dire, avec les eaux et tout ce qui se passe, les dates exactes sont difficiles à savoir. Mais il y a une autre flottille où il y a plus de Canadiens, dont entre autres Nima Machouf, qui est québécoise de Montréal, qui participe à cette flottille-là, qui eux aussi vont tenter. T'sais, chaque fois, l'objectif, c'est d'essayer de faire une brèche parce que s'il y a même un seul navire qui est capable de passer, qui se laisse passer, ça devient encore plus compliqué en droit international pour Israël d'empêcher les prochains, parce qu'ils ont comme un peu tacitement permis à un bateau. Alors, chaque fois, l'idée, c'est ça. C'est comme si on se disait, on cogne à la porte, est-ce que tu nous laisses rentrer? Non. OK, ben on va revenir. On cogne à la porte, est-ce que tu nous laisses rentrer? Non. Ben on va revenir. Éventuellement, peut-être que si quelqu'un dit oui, ben là, ça ouvre la porte grande ouverte à toutes sortes d'autres aides humanitaires qui pourraient justement simplifier la question de l'enfant qui a faim.
Et qui peut réussir à défaire ce maillon-là? Parce que Benjamin Netanyahou a parlé à l'ONU vendredi dernier. Mmh. On en a parlé quand tu es venu ici. Les diplomates se sont levés, sont partis. Est-ce qu'il y a un pays? Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est les pays du Moyen-Orient qui pourraient réussir à mettre suffisamment de pression sur Netanyahou et Donald Trump pour faire en sorte que là, la bouffe commence à rentrer là-bas?
C'est les pays alliés à Israël, dont le Canada. Le Canada est un allié d'Israël de très, très longue date. Israël est un pays, par sa position géopolitique, qui dépend de l'appui de ses alliés. Si tous les alliés d'Israël commencent à mettre pression, à dire « Écoute, là, ce qui se passe, c'est pas correct, puis on va te tourner le dos si tu continues », Israël va être obligé de prendre ça en note et va être obligé d'agir en conséquence. C'est sûr que présentement, on commence à sentir ça dans plusieurs pays occidentaux, du fait que, par exemple, on commence à avoir des appuis, des débuts d'appui militaire à ces flottilles-là de pays de l'OTAN. Mais le plus gros allié, ça reste les États-Unis.
Ça reste les États-Unis.
Et tant que les États-Unis, c'est ça. Tant que les États-Unis sont entièrement dans le coin d'Israël, ça va être très difficile convaincre le gouvernement de Netanyahou de changer de direction.
Mark Carney se rend à la Maison-Blanche mardi. Bon, on va parler de commerce, évidemment. Mais penses-tu que ça va être un point à l'ordre du jour?
Si c'est à l'ordre du jour, on va pas le savoir.
Non, ouais.
Moi, si j'ai à mettre, je fais de la spéculation,
ouais,
là, je suis pas dans le secret des dieux, si j'ai à mettre un petit 2$ là-dessus, ce serait que s'il en parle, je doute que ça va faire les manchettes, je doute que ça va se savoir. Peut-être que le plus qui va arriver, c'est qu'un journaliste va poser la question et les deux vont dire, ou un d'entre eux va dire, on l'a abordé, prochaine question. Ouais. Parce que c'est pas dans les intérêts de M. Carney de souligner les points de désaccord entre le Canada et les États-Unis en géopolitique internationale.
En effet, t'as entièrement raison. Et je termine avec cette question-là. Est-ce que Benjamin Netanyahou et des grands dirigeants israéliens pourraient être arrêtés en droit international une fois que ce conflit-là va être réglé? Puis là, j'ai une fois que le conflit va être réglé, on ne sait pas quand, là, mais est-ce que ça pourrait arriver?
Ben, je pense que c'est un autre rappel important. Là. Présentement, il y a dans la Cour criminelle internationale, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, je suis désolé, je me souviens pas
mais
du nom de la Cour, là, mais selon le statut de Rome, il y a un mandat d'arrestation contre M. Netanyahou. Alors, si M. Netanyahou se rend dans un pays qui est signataire et encore partie prenante du statut de Rome, dont le Canada, il devrait normalement être arrêté pour qu'on l'envoie devant les cours de justice en droit international. Est-ce que ça va arriver? Personnellement, je ne sais pas. M. Netanyahou était aux États-Unis pour aller aux Nations Unies. Ça, c'est un cas un peu particulier parce que généralement, à travers le monde, on reconnaît que se rendre aux États-Unis, c'est un peu un passage sécuritaire pour tout le monde, peu importe. Mais c'est certain que tant que ce mandat d'arrestation-là reste présent, en théorie, selon les obligations en droit international du Canada, si M. Netanyahou vient au Canada, il devrait être arrêté. Est-ce que ça va arriver encore une fois? Je ne sais pas, puis je ne veux pas spéculer là-dessus. Peut-être qu'il va y avoir une entente politique entre tous les joueurs. On peut quand même donner une immunité diplomatique aussi, puis ça, c'est légitime de vouloir le faire. Mais la théorie reste là.
Merci beaucoup, Farnell Morisset. On souhaite grandement que l'aide humanitaire se rende à Gaza dans les plus brefs délais.
Dans les plus brefs délais.
Honnêtement,
c'est pas assez critique.
Oh non, exactement. Faites juste aller regarder des reportages. Puis c'est la vraie vie, là, les reportages. C'est des journalistes qui sont là à Gaza, qui filment la population. Moi, juste de voir dans l'extrait que je vous ai passé, les pêcheurs sur des portes de frigidaire pêcher des petits poissons minuscules puis se dire, bon, ben au moins, je vais manger ça aujourd'hui.
Ouais,
c'est terrifiant.
Il y a aussi des comptes très intéressants sur les médias sociaux. On voit des gens qui essaient de faire pousser n'importe quoi, des fruits, des légumes dans le sable. C'est la désespération.
C'est terrifiant. Merci, Farnell, de nous informer, de nous allumer sur ces enjeux-là qui sont tellement importants. On est-tu bien au Québec?
Souhaitons qu'on reste bien au Québec aussi.
C'est ça,
parce que, je veux dire, c'est pas des gens différents de nous là-bas.
Non, exactement. Merci beaucoup, Farnell Morisset, encore une fois, pour cette excellente chronique. T'es un vulgarisateur hors pair.
Ça fait plaisir, merci.
Good, je te souhaite un excellent week-end. Mathias, avant de passer à une pause et à Lambert Drainville, quelques manchettes.
Oui, juste commencer en circulation parce qu'il y a présentement un accident sur Capitale direction S à hauteur de boulevard Saint-Jacques. Présentement, ça remonte pare-choc à pare-choc jusqu'à Henri IV, puis ça remonte même un peu sur Henri IV présentement. Présentement, l'accès au pont également direction sud, c'est difficile, ça remonte jusqu'à Charret sur Henri IV en ce moment. Capitale direction ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne, difficile également. Si vous avez des informations sur les routes, 88-971-1021. On va continuer à traiter un peu de politique municipale, de locale, et je commence avec le maire Bruno Marchand qui est sorti aujourd'hui pour faire sa troisième annonce économique d'un trio d'annonces qu'il a fait cette semaine. On a notamment commencé la semaine en annonçant le retrait des permis pour les terrasses.
Exactement. Il y a eu la rue Provencher hier dans Cap-Rouge.
Exactement, les différentes rues commerciales. Et aujourd'hui, on sort et on dit qu'on veut augmenter le nombre de nuits passées à Québec par les touristes. On promet d'injecter 10 millions sur 4 ans dans le but d'y arriver. Donc, les 10 millions vont se retrouver dans une enveloppe pour financer des projets, que ce soit provenant des sociétés de développement commercial ou de sociétés privées. Le but, c'est vraiment de développer l'offre touristique. On dit que présentement, les touristes à Québec passent en moyenne 3,8 nuits à Québec. L'objectif, c'est de passer ce chiffre-là à 5 nuits
donc
en moyenne par touriste.
Donc, on veut une semaine à Québec.
Exactement. Passer une semaine à Québec. Puis, le but, c'est bien sûr de dynamiser l'offre. Le maire a donné un exemple, un parcours immersif de la SDC du Vieux-Port qui verra jour au printemps. Également, ce montant-là pourra financer des options de transport, comme par exemple des navettes. Et justement, tant qu'à parler du maire Marchand, la Ville de Québec n'a pas tenté d'obtenir de financement pour le projet de raccordement des usines d'eau usées de Stoneham et de Lac-de-Lage, le jugeant d'emblée, et on dit peu réaliste et dépassant la capacité à payer des citoyens. Mais on n'a pas cherché à aller chercher de financement du côté provincial. Pourtant, présentement, ce projet-là, ça assurerait la pérennité de la source d'eau potable pour plus de 300 000 résidents de la capitale. Puis, ça provient pas de nulle part, là, ce fameux projet-là. C'est à la suite des recommandations scientifiques formulées depuis des années par l'organisme partenaire de la Ville de Québec, Agiro. Donc, on dit que son mandat à cet organisme-là, c'est d'assurer la protection du bassin versant du lac et de la rivière Saint-Charles. Donc, on disait, pour justement, par rapport à la rivière Saint-Charles, c'est nécessaire de faire ce projet-là pour assurer que les habitants aient accès à l'eau potable. Pourtant, le maire Marchand semble pas vouloir le faire. Mm-hmm.
Alors que Claude Villeneuve l'a pris comme engagement électoral, justement, aujourd'hui, là, si je me trompe pas.
Oui, puis on pointe vraiment du doigt le fait que le maire Marchand a pris cette décision-là. On juge ça d'irresponsable, d'incompréhensible. Puis on dit que le maire Marchand préfère miser sur des mesures partielles. Il y a Mme de Guérette qui a déposé aujourd'hui sa candidature officielle à la mairie de Québec. Dans un communiqué, elle a notamment dit qu'elle voulait un report de l'adoption du budget de 2026 et qu'elle exige des audits financiers indépendants à propos du budget de la ville présentement.
On frappe tellement pas sa bonne cible encore.
Tout le monde s'attarde sur ça.
Ah oui, puis je comprends pas pourquoi qu'on s'attarde là-dessus. Je le répète, puis là, vous allez dire « Hey, t'es invendu, Marchand », mais non. Les finances à la Ville de Québec vont bien. On peut parler de stratégies autres que le budget de la ville qui sont justement problématiques, comme la taxe à l'immatriculation qui vient tenter de camoufler le déficit du RTC alors qu'on aurait à rebrasser cette organisation-là. Mais en ce qui a trait à la gestion financière, la Ville de Québec a la cote la plus élevée de la firme Moody, cette même firme que au gouvernement du Québec. Vous savez quoi? On vous décote. Donc, cherchez pas là les candidats qui sont contre Bruno Marchand. Allez sur le développement économique, allez sur la mobilité active, allez justement sur la taxe à l'immatriculation, mais allez pas dans les finances de la ville. Sont bonnes les finances de la ville, puis Luc Moody, le DG de la ville, fait un travail exceptionnel. Je le comprends tellement.
Mais peut-être du côté des candidats, on voit que c'est quand même à la mode politiquement, puis présentement, on regarde au palier provincial, on regarde au palier fédéral, vouloir faire un ménage dans les finances publiques
c'est
de la
clair.
Ville, ça pogne, ça attire ça les électeurs. Fait que peut-être qu'eux autres, ils regardent ça, puis ils disent, sans nécessairement qu'on puisse se critiquer, on va faire ces annonces-là, puis on va attirer des électeurs
comme
ça.
Mais le problème, c'est que c'est 100 milliards de déficit qu'on va avoir au fédéral, puis c'est 13,5 au provincial, mais à la Ville de Québec, on rembourse la dette.
Ben non,
c'est pas du tout la même réalité.
Je suis d'accord avec toi. Je passe sur deux nouvelles rapidement. Tout d'abord, Post Canada, il y a une nouvelle offre qui est déposée justement pour le syndicat qui est présentement en grève. Là. On parle d'une hausse salariale de 13,59% sur 4 ans qui est présentement proposée aux employés de Post Canada, ainsi que le maintien des régimes de retraite à prestations déterminées, des assurances collectives et de généreux congés pouvant aller jusqu'à 7 semaines. Donc, c'est la nouvelle offre présentée aux employés de Post-Canada. Et je termine avec le premier ministre Mark Carney qui va se rendre à la Maison-Blanche mardi prochain pour y rencontrer le président américain Donald Trump.
Oui, on va reparler un peu en fin d'émission. Je vous ferai jouer justement un extrait de Pierre Poilievre qui fait ses recommandations à Mark Carney pour ce voyage-là. Mais dans le fond, c'est des recommandations que Mark Carney s'est données lui-même en campagne électorale. Je vais vous faire jouer ça. On va tenter de parler de Post-Canada. Normalement, la semaine prochaine, on va parler avec le ministre Joël Lightbound qui est justement le porte-étendard de la réforme de Post-Canada, une réforme qui fait plein de sens. Donc, on devrait lui parler. Puis, on va tenter la semaine prochaine aussi de se pencher un peu plus sur le dossier des eaux, là. Lac Saint-Charles, Rivière Saint-Charles. C'est quand même assez complexe. Je veux qu'on puisse le comprendre et que les auditeurs puissent le comprendre aussi. Ça va être un élément important sur le vote municipal. Donc, je veux qu'on en parle. Parlant de vote municipal, Farnel, tu vas être avec nous le 2 novembre.
Oui, j'ai hâte à parler de ça.
Ben oui, élection municipale. Donc, les boss m'ont pas encore dit oui, mais j'en parle quand même en nombre. je suis de même, je suis un rebelle, je viens d'abord.
Excellente façon de te faire dire oui.
Ben, c'est exactement. Ça. Alors, Farnell, Morisset, Antonin, Iacarini, normalement, devraient être avec nous également. Mathias va être sur le terrain. Max Larouche va être là au résultat. Alors, moi, je serai à l'animation. Donc, puis plein d'autres gens qui vont joindre à notre équipe également. Alors, si vous voulez être les mieux informés sur la campagne électorale, ça se passe ici à Boulevard. On l'a vu hier avec le débat. Je le rappelle, mardi, Claude Villeneuve contre Stéphane Lachance à 8h30 dans Marceau le matin. Et également, bien, vous allez le voir avec la soirée électorale du 2 novembre. On sera la radio à Québec le plus sur la coche pour ces élections municipales. Courte pause et par la suite, il est en feu. Il m'a dit, il faut absolument que je te parle du débat d'hier. Il a l'air fâché du débat d'hier, Lambert Drainville. Il a écouté ça sur sa petite TV parce que c'était sur Twitch puis YouTube. Il a l'air fâché. Sondage. Faut absolument qu'on parle du sondage léger parce que, aïe, 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 la CAQ et Québec solidaire sont en train de disparaître du paysage politique. Puis on va finir ça, le 1-2-3 punch. On avait fait cette semaine avec Lambert crochet de droit aux islamiques radicaux, crochet de gauche aux syndicats. Puis là, je me rappelle pas qui qu'on donnait l'uppercut final, mais en tout cas, alors là, l'uppercut va venir à Santé Québec qui a mis sur la glace deux projets de santé numérique. On parle de tout ça après la pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase.